Baruch HaShem, ça me fait très plaisir de venir parler dans les Shiva de Shiot Yosef à chaque fois. Je vous dis, pour la petite anecdote, ça me touche énormément parce que pour moi, la première fois que j'ai mis le pied dans une yeshiva, c'était ici. Première fois de ma vie, j'étais bachour à l'époque, j'étais au lycée. Et le premier Shabbat que j'ai passé à la yeshiva, c'était ici. Donc maintenant, ça me touche particulièrement d'être là. Dans la fameuse yeshiva du Rav Ron Shaya Shlita Baruch HaShem. Alors, vous savez que nous traversons des parachutes extraordinaires qui sont les parachutes de Noavot, Sefer Bereshit. Sefer Bereshit qui est, vous savez que la Torah peut nous apprendre des leçons de deux manières. Soit elle nous l'apprend à travers des commandements, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qui est moutar, assour. Ça, c'est la base qu'on sait. Soit, nous dit le Maharal, la Torah nous apprend des leçons à travers des histoires. Et le Zohar nous dit combien il est grave qu'une personne lise les histoires de la Torah qui sont rapportées particulièrement dans le Sefer Bereshit sans en tirer de leçon. C'est notre devoir, c'est quand on analyse un petit peu la Torah Kdosha, c'est en tirer des leçons, voire analyser un peu ce qu'on peut en apprendre. Une fois le Chafetz Chaim, il est arrivé à la yeshiva, dans sa yeshiva à Radin, pour faire un shiur pendant le mois de Elul. Début de l'année, mois de Elul, il arrive et monte sur la bima. Il prend la parole devant tous les bachourim. Au moment où il prend la parole, il dit aux bachourim, vous savez que arrive Rosh Hashana et chacun il a ses tfilotes particulières, personnelles. Mais il y a une tfila qui est commune à tout le monde. C'est quoi? La tfila pour l'argent. Tout le monde demande de l'argent à Rosh Hashana. Ça nous dit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim me dit, mais qu'est-ce qu'un Ben Torah a besoin d'argent? Il étudie la Torah, Baruch HaShem, c'est la plus grande richesse. Il a besoin d'argent? À ce moment-là, lui répond le Chafetz Chaim, oui. Pourquoi? Pour pouvoir faire des belles mitzvot. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire des belles mitzvot. Donc, on pourra faire des belles mitzvot, on a besoin d'argent. À l'époque du Chafetz Chaim, un étrog, ça valait 50 roubles. 50 roubles, pour vous donner une notion, ça vaut à peu près 20 000 shekels à l'heure actuelle. C'était le étrog de l'époque. C'est-à-dire que le Chafetz Chaim, il y a la moitié de la ville de Radin qui a brûlé, qui a pris feu. Et le Chafetz Chaim, il est parti pour ramasser de l'argent. Pour reconstruire la moitié de la ville de Radin, il a rassemblé 200 roubles. D'accord? Et un étrog, ça valait 50 roubles à l'époque du Chafetz Chaim. Pourquoi? Parce que les étrogim, ça vient du Maroc, ça vient d'Eretz Israël. Et le temps que ça vienne, ça a le temps de s'abîmer en chemin. Et tout, avant qu'il y en ait un qui arrive comme il faut, à peu près cachère, c'était déjà un miracle. Donc maintenant, ça coûtait très très cher, extrêmement cher d'acheter un étrog. L'île Chafetz Chaim, une personne, elle va acheter un étrog. Ça vaut la peine, c'est kedai. Elle sait que c'est kedai. À l'époque, pour vous donner une notion, ils n'avaient tellement pas d'argent pour acheter le étrog que toute la communauté se cotisait. Pour acheter le étrog, ils en achetaient un pour toute la communauté. C'est-à-dire que c'était le rave qu'il avait et tout le monde faisait la queue pour faire le étrog. Parce que Descartes, il y a une chéla dans le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il a une fois la question. Quel est le din? Quelle est la lacha pour un étrog qui est devenu marron tellement les gens l'ont pris? Parce que quand t'as toute la Keïla qui est venue et qui a pris le étrog, il est fatigué au bout d'un moment, le étrog, d'accord? Donc lui, maintenant, il est devenu marron, le étrog. Donc quel est le din? Est-ce qu'il est encore, il est devenu pas soul ou il est cachère? Il dit, le Khatam Sofer, c'est le plus beau de tous les hidours. Il dit, le Khatam Sofer, c'est le plus beau étrog qui existe. Un étrog marron, tellement il est fatigué, tellement les juifs l'ont pris. Mais pour vous donner une notion, il dit, le Chafetz Chaim, donc c'est kedai d'investir dans 50 roubles pour un étrog. Ceux qui peuvent, c'est kedai. Nous, on le voit tous les ans à Yom Kippour. Il y en a qui sortent des sommes astronomiques. Pourquoi? Pour acheter la Pticha Taechal de Neila. Pticha Taechal. De la Neila. L'ouverture de Echal au monde Neila, vas-y, c'est des dizaines de milliers d'euros qui partent. C'est incroyable. Et il dit, c'est kedai. Ils savent que ça vaut la peine. Pourquoi? Parce qu'ils investissent. Ils savent que c'est un investissement. À ce moment-là, le Chafetz Chaim dit au Bachorim, il dit, on a une mitzvah qui négate toutes les mitzvot de la Torah. Laquelle? Talmud Torah. Talmud Torah qui négate Kulam. Nous dit le Gaon de Vilna, Talmud Torah Keneged Kulam, chaque mot de Torah, ça vaut toutes les mitzvot, les 613 mitzvot. À ce moment-là, le Chafetz Chaim, il dit, donc je ne comprends pas comment les Bahurim peuvent tarder de 5 minutes pour venir étudier. Si pour un étrog, ils sont capables de dépenser les gens des tonnes d'argent, alors tarder 5 minutes pour venir étudier, c'est des milliers de mitzvot qu'on perd. Fin de la dracha du Chafetz Chaim. Il y a un Bahur qui vient voir le Chafetz Chaim à la fin du shiur, et il a osé. Il y a le Chafetz Chaim, il l'avait aidé, il a osé. Il y a le Rav, il dit, Rabbeinu, moi ça fait 6 ans que je suis à la yeshiva. 6 ans que je suis dans votre yeshiva. Et il y a 6 ans, vous avez dit la même chose. Et il y a 5 ans, vous avez dit la même chose. Et il y a 4 ans, la même chose. Il y a 3 ans, pareil. L'année dernière, pareil. Cette année, dit peut-être que vous convoquez seulement les bachorim qui viennent d'arriver, ceux qui sont tout frais. D'accord, ceux qui viennent d'arriver, vous voulez leur donner des principes, etc. Donc eux, vous les convoquez pour leur dire une chose. Mais nous, tous les ans, vous nous dites ça, Rav. On a compris. Alors, le Chafetz Chaim le regarde et lui dit, mais c'est pour toi que je parle. Tu tardes pas de 5 minutes au CDR? Et il dit, oui, Rav, c'est vrai. Mais honnêtement, Rav, s'il y a 6 ans déjà, je l'ai entendu et que je n'ai pas changé. Il y a 5 ans, je l'ai entendu aussi. Et je n'ai pas changé. Il y a 4 ans, pareil. Et là, je le re-entends. Bon, vous croyez que ça va changer quelque chose, vous croyez? Alors, le Chafetz Chaim, il regarde et dit, mais vadaï! C'est sûr que ça va changer! Je lui dis, pourquoi? Pourquoi, Rav? Il lui dit, parce que t'as pas compris. Regarde, écoute. Moi, tous les ans, on me fait Khatan Torah. Vous savez, Khatan Torah, c'est celui qui monte le dernier, le jour de Simcha Torah. Ouais, on l'appelle le Khatan Torah. Le Khatan de la Torah. Le marié de la Torah. Il finit la Torah et conclut. Bah, ou Hachem. Il dit, le Chafetz Chaim, moi, tous les ans, on me fait Khatan Torah. Il y a 6 ans, j'étais Khatan Torah. Il y a 5 ans, j'étais Khatan Torah. Il y a 4 ans, Khatan Torah. Et il y a 3 ans, Khatan Torah. Et pareil. Et là, cette année, il y a de grandes chances que Simchat Torah, je sois Khatan Torah. Il dit, Chafetz Chaim, j'ai pas compris. Pour moi être Khatan Torah, j'ai divorcé entre temps. Tous les ans, je suis Khatan Torah. Je suis Khatan. Ça y est, combien? Tous les ans, je vais me marier avec la Torah. Ça y est, j'ai pas divorcé. Bahou Hashem, j'aime la Torah. Je l'aime. Je suis convaincu et tout. Il y a pas. Mais alors quoi? J'ai besoin de me marier tous les ans, Khatan Torah. À ce moment-là, le Chafetz Chaim, il répond, il dit, c'est très simple, c'est parce que chaque année, je suis pas le même Khatan. Parce que le Khatan Torah d'il y a 6 ans, c'est pas le Khatan Torah d'il y a 5 ans. Parce que entre-temps, il y a eu une année de Torah en plus. Et une année de Torah en plus, je suis pas le même. Donc je me remarie tous les ans avec la Torah. Je suis un autre Khatan. Vous savez, je vous l'apprends ça, c'est une règle pour le Shalom Bayit Bezrat Hashem quand vous marierez Bekarov. Et ben, vous savez, une fois je suis parti, moi je venais de me marier, j'arrive chez mon Rav, Ravel Chanan Kohn, je vais le voir, et on commence à chanter Eshet Ra'il. Et je crois que c'était un des premiers Shabbatot après mon mariage. Et donc là, je commence à chanter Eshet Ra'il, et à ce moment-là, je commence à réfléchir Eshet Ra'il. Eshet Ra'il, Minsa, là-bas, d'accord. Ouais. Quand t'es Bachour, tu le chantes, mais là, tu le chantes, elle est là. Donc tu chantes. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je chante Eshet Ra'il, Minsa. Et là, je dis, Eshet Ra'il mi imtsa. C'est la vérité, c'est un peu l'archouma, quand même. Tu chantes à ta femme, Eshet Ra'il heureux, c'est qui trouve la femme vertueuse? Alors, qui loue, toi, tu l'as pas trouvé. Normalement, tu devrais dire, Eshet Ra'il matzati. Si tu veux faire un chant de gloire à ta femme, tu devrais dire, Eshet Ra'il matzati. D'accord, tu devrais dire ça. Non, tu dis, Eshet Ra'il mi imtsa. Qui c'est qui va trouver la femme vertueuse? Qui c'est qui la trouve, celle-là? Et tu chantes ça à ta femme, c'est pas... À ce moment-là, donc j'ai posé la question à mon Rav. Je lui ai dit, c'est bizarre quand même, normalement, Eshet Ra'il mi imtsa. Il m'a répondu quelque chose d'absolument extraordinaire. Écoutez bien la leçon pour la vie. Il m'a dit, parce qu'une Eshet Ra'il, tu l'as pas trouvée. Une Eshet Ra'il, elle sera à tes yeux une Eshet Ra'il à partir du moment où chaque instant de ta vie, tu cherches chez elle combien elle est Eshet Ra'il. Si tu cherches chez elle combien elle est Eshet Ra'il, alors à ce moment-là, tu verras qu'à tes yeux, elle sera une Eshet Ra'il. Si tu dis, ouais, ça va, j'ai trouvé. T'as rien trouvé du tout. C'est quand tu cherches chez elle combien elle est chez Trahil que tu la trouveras à tes yeux et chez Trahil. C'est exactement la même chose. Khatan Torah nous dit le Chafetz Chaim. Tous les ans, on aborde la Torah de nouveau. Mais tu sais, la Torah, c'est ta kala. On est marié avec la Torah. Khatan Torah. Mais tu trouveras la Eshet Ra'il de la Torah. C'est la preuve. Vous prenez n'importe quel sefer, ouais. Vous ouvrez un Rambam. Tu prends un Rambam, tu regardes, tu fais, waouh! Oh purée, t'as vu? Donc là, tu dis, le Rambam, il dit, ouais, bah, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as pas vu? Il dit, bah non, qu'est-ce qu'il y a? Lui, il a pas été zoché. Toi, t'as été zoché, lui, il a pas été zoché. Pourquoi? Parce qu'il a pas encore trouvé l'Aïchet Trail qu'il y avait dans le Rambam. Toi, tu vas voir, tu vas lire deux lignes. Je purée, mais tu te rends compte, mais c'est de la bebon, ce qui est marqué. Et maintenant, de l'autre, il va dire, ouais, j'ai pas compris. Alors, il a dit un truc pas chouette, quoi. C'est que toi, t'as été zoché de voir l'Aïchet Trail qu'il y a dans la Torah, et lui, il a pas été zoché. Comment ça dépend de quoi? Combien tu la cherches? Combien tu la cherches? Lui répond le Refet Sraim à ce bachour là. Il lui dit, tu sais, s'il y a 6 ans, ça t'a pas fait d'effet, ce que j'ai dit. Et il y a 5 ans, ça t'a pas fait d'effet. Il y a 4 ans. Tu sais pourquoi? C'est parce que t'avais pas encore compris la véritable valeur de la Torah. Mais peut-être que maintenant, quand je te le dis, là, ce mois de Elul, t'as eu 1 an de plus de Torah depuis le Elul l'année dernière. Donc peut-être que cette année, tu vas plus comprendre. Ça, c'est le regard qu'on est censé avoir à partir du moment où on aborde de nouveau le Sefer Bereshit. Quand on aborde de nouveau le Sefer Bereshit, on se dit, mais, allez, on connaît. Ah, Adam, Chava, ils ont croqué le fruit, truc, Noah, et le déluge, les trucs, et Abraham Avinu. Ça y est, on connaît. Combien tous les ans tu recommences? Jusqu'en fait, est-ce que tu finisses par comprendre qu'en fait, on parle de toi? On parle de toi. Quand tu comprends qu'en fait, on te demande à Noir, tu sais, Noir, fais un bateau, truc, machin, parce qu'il va y avoir le Maboule, en fait. Hachem, il te parle à toi. Il te dit, Baba, c'est le Maboule dehors, fais un bateau. Va à l'Yeshiva. Enferme-toi à l'Yeshiva. Ne fais pas rentrer le Maboule dans l'Yeshiva. Ouais, jette les téléphones, les trucs, les machins, les tralouettes. C'est enferme-toi. Faut s'enfermer, faut que ça ferme bien, parce que sinon, si ça bouge, c'est le déluge dans l'Yeshiva. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut que tu comprennes. On parle de toi. On parle de toi. Et qu'est-ce que tu dois faire à la yeshiva? C'est genre mode détente? Tu te crèves. Tu te fatigues. Pour être sauvé d'un maboule, faut se fatiguer, faut se donner. Et à partir de ce moment-là, tu verras que tu vas sortir de la teva, t'auras un nouveau monde qui va s'ouvrir à toi. Une nouvelle vie. Tu peux finir l'année de la yeshiva avec une nouvelle vie devant toi. Ou tu peux finir le même maboule parce que t'es resté dedans en étant dans la yeshiva. C'est ton choix. Mais la Torah, elle parle à qui? Elle te parle à toi. Elle te parle à toi. Et toi, tu dois comprendre, tu dois avoir cet état d'esprit-là, d'avoir cette maturité, de dire, on aborde la Torah de nouveau, on aborde Avraham Avinu, on nous parle des Deavot Akdoshim. Mais on doit se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Comment se fait-il? Nous dit le Ramchal. Imaginez-vous, dans Sefer Etzachayim, le Ramchal, il dit, une personne doit s'asseoir au moins 1 heure par jour pour réfléchir, qu'est-ce qu'ont bien pu faire les Avot Akdoshim pour être tellement aimés par Hachem? Pour être tellement aimé par Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire? Et tu dois t'asseoir 1 heure par jour. Qu'en se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu, il veut détruire Sdom Ve'Amora? Je crois qu'il va les détruire comme ça. Il va pas détruire comme ça. Il va dire, attends, mais je peux pas si j'ai pas prévenu Avram. Ça se fait pas! Qu'est-ce que ça se fait pas? C'est toi le patron? C'est de quoi ça se fait pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait Avram, Yitzhak, Yaakov pour recevoir une telle bracha dans leur vie? Une telle atzlacha? Et nous, on demande ça. On dit dans Birkat HaMazon, Arachaman, Yiva, Echotanu, Kemoshenit, Bachou, Avotenu, Avram, Yitzhak, Yaakov. On demande à être bénis comme ils ont été bénis. On veut cette réussite-là. Vous savez, quand tu es un milliardaire, il a réussi dans la vie. Il a réussi, il a fait un truc, un investissement, un truc. Tout le monde veut savoir. Tout le monde veut savoir. Attends, sur quoi il a misé? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son idée? Qu'est-ce qu'il a fait pour truc? Tout le monde veut savoir. Et le mec, il est devenu fortuné du jour au lendemain. Tu veux savoir son le piston? Tu veux dire, attends, c'est pas possible. Comment il a fait? Moi, je le connais, j'ai vu avec lui. Maintenant, il roule en Porsche. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu t'intéresses, mais tu dois t'intéresser comme ça à Avot Akdoshim. Je dis, mais purée, mais tu vas n'importe où dans le monde, tout le monde connaît Avraham, Yitzhak, Yaakov jusqu'à aujourd'hui. Je dis, mais comment ils ont fait pour réussir? C'était quoi la clé? Et on nous demande ça, vous savez que c'est marqué dans Tana de Beliaou, Chayav Adam Lomar Bechol Yom, un homme doit dire tous les jours, Matai Yagiou Maasai, les Maasai Avotai Avraham, Yitzhak, Yaakov. Quand est-ce que mes actions atteindront celles de Avraham, Yitzhak, Yaakov? On a l'obligation de se poser la question, quand est-ce que moi, mes actions, elles atteindront le niveau d'Avraham Yitzhak Yaakov? Alors là, la question que j'ai pour vous ce soir, c'est tout simplement, c'est sympathique, on te dit, quand est-ce que mes actions atteindront celles d'Avot? Et nous, maintenant, on doit ressembler au Avot. Mais une fois, j'ai entendu à Bnei Brak de Rav Greenemann. Rav Greenemann, il a dit, je ne sais pas si vous savez, mais tout ce que nous, on peut concevoir d'Avraham Avinu, tout ce que nous, on peut s'imaginer de la grandeur d'Avraham Avinu, mais de la gadlout, que ce soit en Torah, en Chesed, tout ce que tu peux t'imaginer, c'est même pas ce qu'il était le Chazonish. C'est-à-dire, je sais pas si t'imagines un peu, où est-ce qu'il est ton cerveau? C'est-à-dire que ton cerveau, il peut même pas concevoir plus que ce qu'il était le Chazonish. Parce que tout ce que toi, tu conçois d'Avraham, t'as même pas atteint le Chazonish. Alors le Refet Sraim, je t'en parle même pas. Le Chefetz Chaim, notre cerveau ne peut pas concevoir la grandeur du Chefetz Chaim. On peut pas parler du Chefetz Chaim parce qu'on ne comprend pas la grandeur de ce qu'il était. Et alors, je vous parle même pas du Baal Shem Tov et du Gaon de Vilna, et encore moins de Rashi, du Ramban, du Rajba, du Rif, du Ran. D'accord? Voilà. Alors, Abayi Rava. Et c'est tombé. Et après, t'as Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, et après, t'as Yoshua Bin Nun, etc., etc., etc. Alors, nous, c'est sympathique. D'un côté, on te dit, Matai Yagiu Maasai, les Maasai Avotai, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Hein? Quand est-ce que mes actions, elles vont atteindre celles d'Avraham, Yitzhak, Yaakov? Mais le problème, c'est que tu peux même pas concevoir la grandeur des Avot. La Gemara le dit. Elle dit, Imrishonim ke malachim anu ke bne Adam. La Gemara. Donc, je vous rappelle que la Gemara, c'est les Amoraïm qui parlent, d'accord? Qui faisaient tous triat ametim, sans exception. Maintenant, eux-mêmes, les Amoraïm, ils disent, Imrishonim, si nos ancêtres, c'était des malachim, c'était des anges, anu ke bne Adam. Nous, on est des hommes. Vimem bne Adam. Et si jamais tu dis, ouah, ça va quand même, Abraham Avinus. Quand même, c'est des hommes, ça va. Pas que, alors, si tu les considères comme des hommes, anu ke chamorim, on est des ânes. On est des ânes. Des ânes. C'est pas que la Gemara veut te rabaisser, te prend pas pour ce que t'es pas et arrête de te la jouer, truc. C'est pas que la Gemara veut te rabaisser. C'est que la Gemara veut te faire comprendre que tu peux pas avoir de notion, de compréhension de leur grandeur. Parce qu'au même titre qu'un homme, nous, on peut pas comprendre le problème d'un ange. Pas comprendre c'est quoi ses problèmes quotidiens, qu'est-ce qu'il doit faire, quelle est sa mission, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'on attend de lui. Et on peut pas, parce qu'on est des hommes, on peut pas comprendre quel est le devoir d'un ange. Et ben c'est la même chose avec les Avot Akdoshim. Et si jamais tu dis, bah tu sais, ça, on peut comprendre, t'as un Hamor. Un Hamor, il n'a pas le problème de Parnassa. Ouais, il dit pas comment je vais finir le mois, est-ce que je vais partir à la coupe à Trolim, est-ce que j'ai ma carte avec. Il se dit pas ça, un Hamor. Parce que lui, il veut juste savoir s'il y a du foin là où il doit manger, c'est tout. Et ben Rabotai, c'est la même chose par rapport à Avot et nous. C'est incomparable. On ne peut pas comparer nous et les Avot. Alors comment on peut dire maintenant d'un côté Tana de Biliaou, Eliyahu Hanavi nous dit Matai Yagiu Maasa et les Maasa Avotai Avraham Yitzhak Yaakov. Et d'un autre côté, on ne peut pas avoir notion de leur grandeur. Alors en fait, la réponse, elle est très simple. Honnêtement, la réponse, elle est très simple. C'est qu'on attend de nous de suivre le chemin qu'ils ont pris. C'est ça qu'on attend de nous. De suivre le chemin qu'ils ont pris. Je ne sais pas si vous imaginez, mais les Avot Akdoshim, ils avaient une force d'analyse du monde qui était hors du commun. Mais qui était hors du commun. C'était inimaginable. La force d'analyse qu'ils avaient. Vous savez, on donne un Lego à notre enfant. C'est Hanouka, truc, machin, t'achètes une boîte de Lego. Maintenant, le Lego, t'as deux manières. Ou tu regardes le plan et tu construis le Lego. Ouais. Ou tu regardes le Lego et en fonction du Lego, t'as compris le plan. Eh ben, les Avot Akdoshim, ils regardaient la terre et ils voyaient le plan qui était la Torah. Le Zohar, il nous dit comme ça. Il nous dit, Ista kel beoraita ou baralma. Kadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah et il a créé le monde. C'est-à-dire que le monde n'est rien de plus que la réalisation du plan qui est la Torah. Maintenant, tu dis, mais comment les Avot, ils faisaient la Torah et les Mitzvot? Comment ils mangeaient de la matzah à Pessah? Et comment ils faisaient Kibbud Avem? Comment? Ils n'ont pas reçu la Torah! Comment? Ben, eux, en fait, c'est pas compliqué. Ils regardaient l'ego, ils comprenaient le plan. Ils voyaient le monde, ils analysaient le monde et ils comprenaient le plan. Nous, le problème, c'est qu'on regarde le monde à l'envers. Nous, on regarde la Torah à l'envers même. Parce que nous, on se dit, attends, parce qu'on a besoin d'aller aux toilettes. Alors, du coup, il y a une bracha qui s'appelle Achar Yatsar. Oui, c'est comme ça qu'on réfléchit, nous. Parce qu'on a besoin d'aller aux toilettes, parce qu'on a des parents. Alors, du coup, il y a une mitzvah qui s'appelle Kibbud Avem. Mais c'est faux. C'est exactement l'inverse. C'est parce que maintenant, dans notre Torah, il y a une mitzvah qui s'appelle Kibbud Av V'Em, qui s'appelle « Tu respecteras ton père et ta mère », que toi, de manière incroyable, tu as un lien avec tes parents. Je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais le bébé croco, à partir du moment d'un certain âge, il n'en a rien à faire qui est la maman croco, qui est le papa croco. Il n'en a rien à faire, il n'a pas de notion de Kibbud Av V'Em, vas-y, va attraper une gazelle et va le donner à papa et à maman. Il n'y a pas de Kibbud Av V'Em chez eux. Ils savent même plus qui est leur père, qui est leur mère. Pareil, Marguerite, la vache dans la prairie, elle ne sait pas qui est sa tante, sa mère, ni sa sœur. Elle ne sait pas. Alors pourquoi nous on sait? Et pourquoi nous c'est important? Et pourquoi nous maintenant on est liés à nos parents? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah qui s'appelle Kibbud Av V'Em. Donc comme il y a une mitzvah qui s'appelle Kibbud Av V'Em, alors Kadosh Baruch Hu nous a créé avec un lien spécifique avec nos parents. Parce que maintenant il y a une bracha qui s'appelle Asher Yatsar, Kadosh Baruch Hu nous a créé le besoin d'aller aux toilettes. Et pas l'inverse. Parce qu'Hachem, il aurait pu nous créer genre mode panneau solaire. On aurait pu recharger au soleil. Hachem, il n'a pas de problème, il fait ce qu'il veut, Hachem. Mais pourquoi maintenant on a besoin de faire ça, et manger ça, et après tu vas aux toilettes, et après une fois que tu sors de toilette, tu fais Achariyatsar? Parce qu'il y a une bracha qui s'appelle Achariyatsar, alors du coup, on t'a créé avec le besoin d'aller aux toilettes. C'est pareil pour toutes les brachot. On le dit dans le Boré Nefashot. Qu'est-ce qu'on dit dans le Boré Nefashot? Baruch Ata Hashem. Elokeinu Melech Haolam. Boré Nefashot Rabot Vechesronan. Akadosh Baruch Hu, tu as créé toutes ces âmes-là, toutes ces créatures avec leur manque. Pourquoi avec leur manque? Parce que c'est grâce au manque qu'on peut te faire des brachot. Donc Akadosh Baruch Hu, tu avais une notion, tu avais un plan qui s'appelait faire des brachot pour qu'on soit lié à toi 24 heures sur 24 dans chaque action qu'on fait. Et donc tout simplement, tu nous as créé avec des manques pour ça. Mais c'est la conséquence. C'est pareil, pourquoi Avraham Avinu, il mangeait des matzot, il est sorti d'Égypte, Avraham Avinu. Il mangeait les matzot avant d'être descendu en Égypte. Je me dis, mais comment ça fonctionne? Comment c'est possible? Parce qu'encore une fois, tu manges pas des matzot parce que maintenant tu es sorti vite d'Égypte et que t'as pas eu le temps et que le pain il est pas monté. Non! C'est parce que maintenant il faut manger un pain qui ne soit pas chametz, qui s'appelle la mitzvah de manger la matzah, qu'Hachem il nous a mis dans une situation qu'on va sortir rapidement d'Égypte et que le pain n'aura pas le temps de monter. C'est comme ça. Une fois, vous savez que le Rav Shteinman, il était au Mexique. Il était parti, il avait fait la tournée dans le tour du monde pour tout simplement être mitrasé avec les gens, pour les renforcer dans l'étude de la Torah, ouvrir des yeshivot. Il arrive au Mexique et il y a un milliardaire qui attend le Rav Shteinman. Et lui, bah, au Hachem, c'est un généreux donateur. Mais il pose une question extraordinaire au Rav Shteinman. Il dit, Rabbeinu, franchement, je vous dis honnêtement, je comprends pas. Nous, les riches, on essaie d'assurer pour que les yeshivotes, elles aient ce qu'il faut. Mais le problème, c'est que dès qu'une yeshiva, elle tient un peu debout, hop, il y en a une autre qui se crée. Et au final, toutes les yeshivotes, elles sont en dette, tous les séminaires, ils sont en dette, il n'y a personne qui a de l'argent. Peut-être que vous réduisez le taux des yeshivotes, comme ça, ces yeshivotes, elles n'ont pas de manque, et ben, ouvrage HM, tant mieux. Comme ça, tout le monde fonctionne. Non, il faut qu'il y ait plein de yeshivotes et que tout le monde soit en dette, mais c'est pas grave, on en ouvre d'autres. Mais pourquoi? Alors le Rav Shteinman lui a répondu, moi je me souviens, écoutez bien la réponse du Rav Shteinman, il dit, moi je me souviens qu'à l'époque où j'étais petit, il y avait deux yeshivot et il y avait deux riches. Réponse du Rav Shteinman. J'ai pas compris. Il dit, non, je t'explique, c'est pas parce qu'en fait il y a des riches qu'il y a des yeshivot. C'est parce qu'il y a des yeshivot qu'il y a des riches. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent que du coup maintenant on peut faire des yeshivot. Non, c'est parce qu'il y a des yeshivot qui se créent que du coup on a besoin de gens qui ont de l'argent. Donc Akadosh Baruch Hu, il crée des nouveaux riches. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de yeshivot. La source de bracha, c'est les yeshivot, c'est comme ça. Mais nous, faut regarder les choses comme il le faut. Et ça, c'était la grandeur des Avot. La grandeur des Avot, c'est qu'ils savaient analyser le monde. Et en analysant le monde, ils voyaient la Torah. D'où Avraham Avinu, il faisait du chesed comme ça. D'où Avraham Avinu, il a appris, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. T'as trois arabes qui arrivent chez toi, c'est des malachim, mais déguisés en arabe, comme ça que dit Rashi. Et qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent chez toi et tu fais tabac trois taureaux. Mais montrez-moi une halakha dans le Shulchan Aruch, c'est marqué un truc pareil. T'as trois taureaux pour l'offrir à chacun. Mais c'est une halakha, ça. C'est une halakha torim, c'est une dimension, mais inimaginable. Mais d'où il a appris ça? C'est son rave qui lui a appris. C'est qui son rave? D'où Avraham Avinu, il a appris ça? Réponse. Avraham Avinu, il a appris ça, ni plus ni moins d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il t'a ramené dans un monde. Tu es l'invité d'Hachem dans ce monde. Et le monde qu'il t'a donné, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné de quoi manger, oui. Il t'a donné des poulets, il t'a donné des oiseaux. Il t'a donné... Mais il va pas te donner, bon, alors tu sais, t'as besoin d'un poulet pour Shabbat, t'as besoin d'un saumon et d'une vache. D'accord? Bah, je vais te créer des poulets, des saumons et des vaches. Non, c'est pas, Hachem, il va pas te faire ça. Hachem va te créer plein de poulets, plein de milliers de sortes de poulets, et des perroquets, des trucs qui se mangent pas, et des trucs... Je me suis dit, mais à quoi ça sert? Pourquoi j'ai mis, tu crées des poissons, et pas juste un saumon, un truc. Non, il y a le saumon, la carpe, le truc, le machin, et les saumons, et même les poissons qui se mangent même pas. C'est juste, ils sont beaux. Mais pourquoi j'ai mis les sacrés? Tu sais pourquoi j'ai mis les sacrés? Rien que pour que tu kiffes. Pour que quand tu vois, tu dis, oh, waouh, il est beau ce poisson. Voilà, c'est pour ça. Hachem, il l'a créé pour ça. Pour que quand tu vois, tu fais, oh, waouh, il est beau le perroquet. Mais ça se mange pas le perroquet. Ouais, mais c'est beau. Ouais, ben voilà. Hachem, il l'a créé juste pour te faire kiffer. Hachem, il n'a pas créé un sapin, un pommier, un truc. Non, il a créé des pommiers et plein de sortes de pommes et plein de trucs. Mais pourquoi? Rien pour te faire kiffer. Avraham Avinu, il a vu ça. Il a dit, mais moi, je peux pas recevoir quelqu'un chez moi, je lui donne un verre de coca. Je peux pas. Je suis obligé d'abattre trois taureaux, tout truc. Mais... parce qu'il se sentait pas. Mais d'où il a appris, Avraham? Mais d'Hachem, il a appris. Du Bourolam, il a appris. Parce qu'il voyait la création, il comprenait Mar et son Hachem, Kakadosh Bourg. Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi? Et nous, on doit se demander ça. Je sais pas si vous avez déjà fait cette analyse, c'est incroyable. Tout ce qu'Hachem, il a créé, est rond. Et de forme arrondie. Or, tout ce qu'il nous demande de faire est carré. Vous avez remarqué? C'est incroyable, ça. Faut l'avoir analysé, ça, une fois. Regardez, tout ce qu'Hachem, il fait, c'est rond. Donc, les planètes, elles sont rondes. Une goutte d'eau, quand elle tombe, elle est pas carrée. Ouais. Elle est ronde. Et les gouttes d'eau, elles sont, les fruits, les légumes, ils sont arrondis. Ouais. Les arbres, ils sont arrondis. Les feuilles, elles sont arrondies. Tout est arrondi. Tout ce qu'Hachem a créé, c'est arrondi. L'être humain, il est arrondi. Il y en a qui sont même très ronds. D'accord? Chacun, il est arrondi. Chacun, il a sa forme. Mais non, mais on est arrondi. Tout ce qu'Hachem, il a créé, c'est rond. Mais maintenant, tout ce qu'il nous demande de faire, c'est carré. C'est-à-dire, maintenant, tu veux mettre les titites sur un habit, tu dois avoir quatre coins. Tu veux rendre un habit pas tour de titites, qu'est-ce que tu fais? T'arrondis un des quatre coins. Tu sais, t'es déjà plus rêve de faire les titites. Maintenant, les tefilines, carré sur carré. Faut que ce soit carré, carré. Maintenant, tu regardes le Betamigdash, il fallait que ce soit carré, tac, rectangulaire, tac, 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 tac. Tout ce qu'Hachem nous demande de faire, c'est carré. Donc, vous regardez la mezouza, tu dis, ouais, non, c'est rond. Non, c'est pas rond, la mezouza. La mezouza, quand tu l'ouvres, il faut qu'il y ait des traits qui soient déjà imprimés sur la feuille pour que maintenant ce soit bien écrit. Tu ouvres la mezouza, tu vois, c'est carré. Tu ouvres le Sefer Torah, tac, 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 l'écriture. Allez. Tout ce qu'Hachem nous demande de faire, c'est carré, alors que lui, il fait, c'est rond. Bizarre, quand même, non? Faut avoir analysé ça une fois. La réponse, elle est très simple. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne une leçon. Tout ce qui est lié à ce monde, arrondit les angles. Par contre, tout ce qui est lié à la Avodat Hashem, carré. Et vous regardez un phénomène incroyable, c'est que les gens ont tendance à faire exactement l'inverse. D'accord? C'est-à-dire que quand maintenant il faut acheter la mezouza, ils vont voir le Chabad. Mais ça va, lui, c'est quoi, ça va, j'achète la mezouza là-bas. D'accord? Mais quand maintenant il faut acheter la voiture, tu t'y connais dans la voiture? Pas du tout. Mais il va faire quatre concessionnaires. Il va prendre les plans de chaque voiture, truc, il va regarder les comparateurs, il va faire 60 millions de consommateurs, il va dire, attends, je comprends pas, alors qu'est-ce qu'ils ont dit des gens? Ah, donc c'est celle-là, non? Donc ça, attends, j'ai pas compris, tu t'es cassé la tête pour ta voiture, et pour ton étrog. Ah, c'est cachère. C'est bon. Hachem, il s'est dit, non, il faut que ce soit carré dans la Avodat Hachem, et arrondis les angles dans ce monde-là. Pour ça qu'Hachem, il a fait tout ce qui est donné à ce monde, c'est arrondi. Mais tout ce qu'il nous demande de faire, c'est carré. Hachem nous parle. La grandeur d'Avot Akdoshim, ça a été de savoir analyser ce qui les entourait. Analyser non seulement le monde dans lequel ils vivaient, ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé pour comprendre la volonté d'Hachem, mais l'ambiance dans laquelle ils vivaient. Vous savez que les Avot Akdoshim ont grandi dans une ambiance qui est très très bizarre. Très bizarre. Je regarde les générations qu'ils ont vécues, c'est... ça fait peur un peu. La tour de Babel. C'est-à-dire tout le monde se révolte contre Hachem. C'est pourquoi? Je sais pas. On veut pas. Il y en a marre. On a peur de se prendre un gros coup de jet d'eau encore dans la tête. Abraham Avinu, il a aligné ça. Il dit, mais qu'est-ce qui leur arrive aux gens? Je dis, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui... Vous savez, la tour de Babel, c'est rien de plus que la mondialisation actuelle. C'est-à-dire tout le monde parlait Safa Achat, Vedvarim Achadim. C'est-à-dire, tout le monde parlait la même langue. Ils avaient les mêmes projets, les mêmes envies. Ils aimaient les mêmes kiffs. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé en Eretz Israël. J'avais 16 ans. Je me souviens qu'on voyait la différence de mode entre les Israéliens et les Français. Genre, nous, ils nous voyaient arriver, les Français, et ils disaient, mais d'où ils sortent? D'où ils sortent leurs chaussures, leurs jeans, les trucs, les machins? D'où ils sortent? Maintenant, ça n'existe plus, ça. Donc, tout ce que tu trouves en France, tu le trouves en Israël. La mondialisation. Tout le monde aime la même mode. Tout le monde aime les mêmes téléphones. Tout le monde regarde les mêmes films. Tout le monde pareil. Tout le monde formaté. Ça, c'est Dvarim Achadim. C'est que tout le monde aime les mêmes choses. Ça s'appelle la mondialisation. Ça s'appelle la société de consommation. C'est-à-dire que maintenant, on te demande pas si t'aimes ou t'aimes pas. Tu vas aimer! On te dit d'aimer! Et c'est comme ça! Tu demandes pas aux gens maintenant, tu vas pas me dire, pour maintenant mettre que les gens ils achètent des baskets qui sont fluo. Ah ben moi je me rappelle d'enfance, ouais, c'était les mecs qui travaillaient sur le bord des autoroutes qui mettaient des trucs fluo pour qu'on les voit. C'est rien maintenant c'est la mode et tout, c'est fluo. C'est genre les baskets, elles sont orange fluo. On t'a payé pour mettre un truc pareil ou quoi? Mais comment c'est possible? Et non, ils vont l'acheter, les gens. Mais comment t'as pu te faire laver le cerveau comme ça? Comment? Réponse, parce qu'on te l'impose. On te l'impose. On te dit pas maintenant, tu sais, quand on te vend le téléphone. Mais les mecs dans la Silicon Valley, ils sont morts de rire. Parce qu'ils ont fait l'iPhone 6, là. Et après, juste après, quelques mois après, ils ont fait l'iPhone X. Et les gens, ils avaient la vénère. Je purée. J'ai acheté le 6 et maintenant il y a le 6X qui est sorti. Et maintenant dans la Silicon Valley, ils sont morts de rire parce qu'ils ont déjà le XL qui attend. Mais ils vont le sortir. Mais ils attendent juste, ils balancent les miettes aux pigeons comme ça et les gens ils font. Ils arrivent comme ça. Oh, des téléphones, tac, tac, tac. Et les gens ils viennent picorer. Ils picorent. Ils sont morts de rire. Ils disent attends, on a balancé le XL. Non, pas encore. Ils sont encore en train de picorer. Attends. Ils se font un kiff. Et toi, t'es là, tu dis, ouais, tu sais, ouais, truc, et tu t'es fait arracher 1600 euros. Mais tu dis, mais ça va, ta tête, ou quoi? Pour un téléphone, mais l'autre, il marche très bien. Il dit, non, mais t'as pas compris que maintenant, avant que truc. Mais c'est toi, t'as pas compris du tout. Ce qui t'est arrivé. C'est qu'ils t'ont arraché. Et c'est comme ça. Et ça, c'est la société de nos jours. Maintenant, tu dis, ouais, quelle différence avec les religieux? Les religieux aussi, hein. Tu crois qu'ils sont pas lavés les cerveaux, ils sont tous en noir, tous en truc. Non, attends, j'ai pas compris. J'espère quand même que tu sais faire la différence. Que quand maintenant t'es dans la Torah, tu fais le choix de choisir ce que tu veux faire. Mais quand t'es dehors, tu fais pas le choix. On te l'impose. Quand t'as un Ben Torah, on t'impose rien du tout. T'as le choix de faire, tu fais ou tu fais pas. T'as le choix. Parce que t'as pris du recul par rapport à tout ce qui se passe dehors. T'as pris du recul, t'es rentré dans la Tevat noire. Tu vois le Maboul de dehors. Mais maintenant, quand t'es dans le Maboul, tu peux pas réfléchir. On te dit quoi aimer? Tu crois que t'as fait ta choisie, tes endroits de vacances, t'as rien choisi du tout. T'as tapé EasyJet, tu voulais prendre un vol pour maintenant Paris-Tel Aviv. Sur EasyJet, ils ont dit, tu sais quoi, grosse réduction pour un voyage en Grèce. Tu dis, ouais, on va partir en Grèce. Mais en fait, t'as pas choisi de partir en Grèce, on te l'a imposé. On t'impose les choses. Et toi, tu dis, ouais, non, mais tu sais. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? On se retrouve dans une génération de gens qui n'existent pas. C'est pour ça que la génération, la maladie de la génération, vous savez ce que c'est? C'est la dépression. Vous savez pourquoi les gens, ils dépriment? Tous. Maintenant, actuellement, il y a plus d'un Français sur deux qui est sous antidépresseur. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un kiff d'être déprimé. C'est un kiff. Parce que quand t'es déprimé, quand tout va bien, t'arrives, tu vois les gens, tu dis, ça va, ouais, moi, ça va, bon, moi, bah, tant mieux, bon, prochaine, ça va. Mais quand toi, t'arrives et tu dis, non, ça va pas. Alors, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais tu sais pas quoi. Et ça. Alors je dis, ah ouais, tu veux que je t'aide, tu veux. Donc là, d'un coup, tout le monde te regarde. Et tout le monde existe pour toi. Donc tu kiffes. Et ça, c'est la maladie de la génération, la dépression. Les gens, ils kiffent être déprimés. Parce qu'en fait, quand t'es déprimé, eh ben, tout le monde fait attention à toi. Ça, tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va mieux, le truc? Ouais, c'est passé? Ouais, ça va. Oh, j'aime, ça va. Tu peux prier pour moi? Ça te dérange pas? Ouais. Mais en fait, tu kiffes. Parce que tout le monde pense à toi. C'est comme ça. Regardez comment on arrive dans une génération. Abraham Avinu, il nous a appris. Vous savez, normalement, dans l'évolution humaine, ça se passe comme ça. Au début, tu nais bébé. Un bébé, il pense qu'à soi. Ouais, vous savez. Aïr péré Adam, il valait, nous dit Shlomo Meller. C'est-à-dire qu'en fait, un homme, il naît un bébé. Il naît un animal, un petit chamor, une petite âne, comme ça, nous dit Shlomo Meller. Tu vois, un bébé, ça fait quoi? Ça mange, ça rote, ça fait dans la couche, ça dort, ça mange, ça rote, ça fait dans la couche, ça dort. C'est tout ce que ça fait. D'accord, ça. Et lui, il en a rien à faire que tu aies passé une grosse journée ou pas. C'est-à-dire, il va te réveiller à 1h du matin, il va te réveiller à 3h du matin, il va te réveiller à 4h parce qu'il l'a fait dans la couche. Il va pas se dire, attends, je me retiens, eh ben, mon père, il a pas dormi. Non, il y a pas. C'est-à-dire, il va faire. D'accord? C'est-à-dire, il en a rien à faire de ta vie. Ça, c'est un bébé. Un bébé, un enfant, quand il grandit, il n'en a rien à faire. Il y a que lui. Très bien. Maintenant, t'es censé évoluer, et à partir d'un certain moment, il y a toi et il y a l'autre. Ah! Il y a pas que toi. Il y a toi et il y a l'autre. C'est pour ça que les enfants, ils ont tous les nisayon du vol. Ils ont tous l'épreuve du vol. Parce qu'à un moment où ils vont prendre le bonbon du copain, ils disent, mais c'est à moi. Et non, mais ça, c'est à l'autre. Bah, tant pis. D'accord? Et c'est de là commence la notion de propriété privée. C'est-à-dire qu'il y a moi, il y a l'autre. Donc c'est la bar mitzvah, tu vois. Il y a moi et il y a l'autre. Je suis pas le seul. J'ai des frères et sœurs. Il y a un truc, d'accord? C'est comme ça. Et après, le mariage, c'est l'étape d'après. Il y a moi pour l'autre. C'est l'étape d'après. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on est? On est dans une génération absolument incroyable, qui est que ça s'appelle la génération selfie. Vous connaissez ça? La génération selfie, c'est quoi? C'est qu'actuellement, les gens, ils se font des photos d'eux-mêmes tout le temps. Moi là. Moi devant le hôtel. Moi à New York. Moi un truc. Moi très très. Moi. Et maintenant, tu te retrouves avec, tu ouvres les téléphones des gens, il n'y a que des photos d'eux. Il y a eux là-bas, eux là-bas, eux là-bas, eux là-bas, eux là-bas, eux là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi. J'ai pas compris, comment tu espères te marier un jour, toi? Mais comment tu vas espérer un jour te marier? Il n'y a que toi, il n'y a que toi, 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 toi. C'est-à-dire qu'on n'en a rien à faire. Il en a plus. Vous savez, moi, je me rappelle, moi, quand j'étais petit, avant, tu faisais des photos du paysage. Tu voyais un beau truc, tu faisais des photos du paysage. Ouais, t'es genre, t'as vu la Statue de Liberté, tu vois, tac, tu fais une photo. Maintenant, après, c'est... Non, c'est... Venez, on fait tous une photo devant. Genre, c'était en groupe. Après, c'est devenu en groupe. Genre, tu fais une photo, hop, on est tous devant. Et après, non, non, tu me tiens l'appareil, tu me fais moi. Moi. S'il vous plaît, poussez-vous. Une fois, ma femme, elle était dans l'ascenseur à Tel Aviv. Et donc, elle attendait dans l'ascenseur. Et il y a une femme qui l'a dit, excusez-moi, vous pouvez vous pousser? Elle a dit, oui, d'accord. Elle s'est poussée. Et elle a pris son téléphone, elle a fait. Mais ça, c'est la génération. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus toi, il n'y a plus personne. Au pire, tu me tiens le téléphone et tu me fais moi, en photo, comme ça, devant le truc. Moi. Mais qui c'est qui était comme ça, Rabotaï? Mais c'était les Grecs. Mais les Grecs, ils étaient comme ça. La culture du corps, la culture du truc. C'est-à-dire, toi, tu voyais le Grec, tu dis, mais il a craqué le Grec quand même. Il fait une statue de lui, il le met dans son salon. Genre, le Grec comme ça, le Grec comme ça. Il se faisait des statues d'eux-mêmes. Je dis, mais quand même, il faut pas exagérer, quand même, une statue de lui dans son salon. Eh ben, il y a des gens, ils ont des photos que d'eux dans leur téléphone. Eh oui, c'est la génération. Génération selfie, il y a que moi. Mais Rabotaï, nous, on a Abraham Avinu. On est des descendants d'Abraham Avinu. Que quoi tu te donnes pour l'autre? Il n'y a pas toi, c'est toi pour l'autre. Mais ça, Abraham, il s'est battu contre des générations comme pareilles. Il s'est battu contre une Ashkafa comme ça. Parce qu'on peut pas, ça tient pas. Ça peut pas tenir la route. À partir du moment où toi, maintenant, tu n'as que toi, 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 d'un coup, on te dit, tu sais, tu vas te marier, il n'y a que toi, il n'y a que pour l'autre. Je dis, mais pas du tout, mais même pas en rêve, mais il n'y a pas question. Et moi, je les repère tout de suite, moi, les Bahourim. Ils viennent me voir, ils me disent, Rav, voilà, je voudrais un Shido. D'accord, ok, question. Il dit, Rav, je voudrais un mannequin. Je vous dis, non, je suis honnête, voilà, je veux pas vous mentir, je veux un mannequin, je veux un mannequin. Je dis, d'accord, ok, tu veux un mannequin de quelle taille? Il dit, voilà, je veux 1m70, comme ça, comme ça, comme ça. Je suis d'accord, très bien, ok, j'ai noté. Il dit, bah, vous me rappelez? D'accord, très bien. Adieu. Adieu. Mais t'es malade ou quoi? Tu crois que je cherche une cala pour lui? Mais même pas en rêve, mais qui me laisse tranquille, lui. Parce que moi, quand maintenant je propose des filles à des bahourim, j'imagine que maintenant je marie ma fille. Et moi, je vais marier ma fille pour le fantasme de lui. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Mais comment ça a commencé, ça? Moi. Donc quand tu comprendras, il y a toi et il y a l'autre aussi, que l'autre, il a le droit d'exister. Il n'est pas exactement comme tu voulais. Et c'est pas exactement... Ah non, c'est pas comme ça? Alors laissez tomber. Et tu te retrouves avec des célibataires endurcis de 30 ans et qui te disent, ah, moi, je veux un mannequin. Ben, tu dis, mais Ezra Tachem, que tu le trouves. C'est comme ça. Mais pourquoi? Parce que la Ashkafa, elle est complètement tordue. Mais parce que dans notre génération, on est comme ça. Parce que on a grandi dans une jeunesse avec quoi? Avec des magazines, avec des femmes, avec des rues, avec des placardés des femmes. Mais ils vont pas te mettre des moches pour vendre une casserole, c'est sûr. Donc ils vont te mettre. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'as grandi avec ça. Donc tu dis, moi, je veux ça. Mais vous imaginez un peu où est-ce qu'on allait? Mais Avraham Avinu, il a su se battre contre ça. Avraham Avinu, sa grandeur, c'est qu'il a su se battre contre le monde de l'illusion. Vous savez, le Satan. C'est quoi son arme? C'est quoi son arme au Satan? Je vous le dis, c'est marqué dans la paracha de Bereshit. Comme ça, il nous a rien caché. Au moins, il nous a averti depuis le début. Paracha de Bereshit. Le Satan, il arrive, il va voir Chava, il dit comme ça. Ki odea elokim ki beyom achalchem mimenu venifkechu enechem. Vous savez pourquoi Hachem, il veut pas que vous mangez du fruit? Vous savez pourquoi? C'est pas compliqué. Parce qu'Hachem, il sait que le jour où maintenant tu vas manger du fruit, eh ben, tout simplement, tes yeux, ils vont s'ouvrir. À ce moment-là, Chava, elle a entendu ça, elle a dit, va terre à Isha qui tov va être les maachal, vechitava la enaim. Elle a vu qu'il était bon à manger et c'est une source de plaisir pour les yeux. Et après, elle a mangé, elle s'est rendue compte que la bêtise qu'elle a fait. Mais sur quoi il a réussi, le Satan? Sur quoi? Sur l'illusion. Sur l'illusion. Et c'est ça qu'on nous vend maintenant. On nous vend quoi? On nous vend que de l'illusion. Que soi-disant, tu sais, tu vas regarder un film et en 2 heures, ils ont acquis l'amour passionnel. Tu dis, ah, mais c'est trop beau! Mais je te rends compte, en 2 heures! Et en 2 heures, ils ont fait l'amour passionnel et tout! Et tu dis, mais ça va ou quoi? Tous les acteurs d'Hollywood, mais tous, les uns après les autres, on découvre tous des dossiers sur eux, qui trompaient leur femme pendant les tournages et les trucs et les machins. Ils ont tous divorcé 4 fois, ils ont des enfants un peu partout dans le monde. Et après, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, l'amour passionnel en 2 heures! Mais ça va la tête ou quoi? Mais ça va la tête. Mais comment tu peux concevoir un truc pareil? C'est quoi? Il te dit le Satan, venif kiro enerem. Il te dit mais regarde, mais je te promets, mais c'est ça, mais tu vois que truc. Mais c'est du mytho. Comment maintenant les gens ils ont créé une addiction au téléphone? Comment? Parce qu'avant les stars, c'est avec eux qu'on voyait. C'était les stars. Donc comme c'est des stars, alors on les voit partout. Maintenant on t'a donné un téléphone, on te dit tu sais quoi? Maintenant la star c'est toi. Tu fais Instagram, Facebook, truc, machin. Tu fais des photos de toi avec des oreilles de chat, de trucs, de machin. Ouais. Et tu les envoies partout et tu vois, tout le monde t'a vu. Tu dis, ah, t'as vu, t'es ça, t'étais frais sur le truc. Ah, t'étais frais, ah, t'étais frais. Maintenant, toi, le problème que t'avais depuis ton enfance, c'est que bon, ta famille, elle te supportait. Ouais. Ton entourage, bon, bah, il t'aimait, il t'appréciait plus ou moins. Mais maintenant, sur Instagram, tout le monde te kiffe! Donc toi, tu dis, attends, mais quel kiff? Et t'es de là est venue l'addiction des téléphones. Parce que les gens, ils se sont fait, c'est un kiff. Tu te rends compte? T'as 200 likes. Moi, dans ma maison, on me crache dessus. Et maintenant, sur Facebook, j'ai 200 likes. Mais attends, mais c'est trop beau. C'est quoi ça? C'est le monde de l'illusion. Le monde de la mythomania. C'est-à-dire qui est l'autre, tu râles, le bonheur, il est là, et le truc. Elle... Mais c'est faux tout ça, c'est faux. La Torah, elle te dit, mais c'est faux. Abraham Avinu, il s'est battu contre un monde qui était comme ça. Il disait aux gens, mais arrêtez de jeter vos enfants dans le feu. À l'époque d'Avodah Zara, à l'époque de Abraham Avinu, c'était quoi? C'était l'Avodah Zara, c'était l'Avodah Zara du molaire. Du molaire. C'était une Avodah Zara de prendre ses enfants et les jeter dans le feu. Et Abraham Avinu, il s'est battu contre ça. Mais c'est quoi ce combat qu'il avait Abraham Avinu? C'est le combat de l'éducation. C'est-à-dire que maintenant, tu vois, moi, je discute avec des parents. Et tu leur dis, mais peut-être que vous mettez vos enfants dans une école qui est plus religieuse, peut-être que vous enlevez les films parce que c'est pas bon. Et tu dis, non, mais tu comprends, monsieur le rabbin, si jamais maintenant on enlève la télé, alors ça va être l'angoisse, et c'est pas vraiment notre niveau, donc comme c'est pas vraiment notre niveau, alors, j'ai pas compris. Alors comme maintenant c'est pas ton niveau de mettre la casserole, le manche de la casserole vers l'intérieur, alors tu le laisses comme ça, et ton fils il va arriver, il va se cramer, alors tu vas le laisser comme ça, tu dis, c'est une question de niveau là? Pas une question de niveau, c'est une catastrophe ce qui se passe maintenant. Comment ça peut être une question de niveau? Et les gens, ils disent non, et ils se battent. Ils se battent pour jeter leurs enfants dans le feu. Je dis, mais tu te rends compte un peu ce qui se passe maintenant dans les écoles, ce qui se passe dans les téléphones, dans les trucs à chez Michemort, c'est la catastrophe. Peut-être vous changez vos enfants, non, mais je peux pas, mais vous comprenez, Rav, je suis pas au niveau. Quel pas au niveau? Rabotaï, on doit prendre du recul par rapport à la génération qu'on vit. Analyser la génération comme on analyse une sugya. La Gemara, c'est quoi le but de toute l'étude qu'on fait? Vous étudiez quelle Gemara, là? Baba Vatra. Baba Vatra. Baba Vatra. Alors maintenant, lui, il a fait un trou dans le truc, dans le réchaud du voisin, et des trucs, machin, et alors, qui c'est qui doit truc? Je dis, attends, j'ai pas compris. Quel trou? J'habite dans un appartement, au 5e, le truc, il est où le trou? Quel truc? Chorche Nagar Tapara, la vache, elle est encore née, le taureau, il est encore né, la vache! Alors maintenant, c'est fait la 2e fois, donc maintenant, la 3e fois, il est chorra, mouad! Et le truc. Mais j'ai pas compris, elle est où la vache, elle est où le taureau, c'est quoi le truc? Mais la réponse, c'est quoi? C'est que quand t'étudies la Gemara, tu sais ce que tu te fais? Tu t'éduques à réfléchir et mettre. Ça, c'est le limoud de la Gemara. Le limoud de la Gemara, c'est quoi? C'est s'éduquer à réfléchir et mettre. Émet. Où est-ce qu'il est le Émet dans cette situation-là? Il y a le Émet de Abaye, il y a le Émet de Rava, il y a le Émet de Tosfot, il y a le Émet de Rashi, il y a le Émet du Marsha, il y a le Émet de... Réfléchir, chercher le Émet. Parce qu'à partir du moment où maintenant tu as su chercher le Émet, dans ta Gemara, tu dois faire ça dans ta vie. Parce que tu as la sugya de l'éducation, tu as la sugya du Shalom Bayit, tu as la sugya du monde du travail, tu as la sugya du monde du Kollel, tu as la sugya. Et toi, tu dois savoir rentrer dans là-dedans. Tu dois savoir analyser, tu dois savoir réfléchir, tu dois savoir avoir une Ashkafa qui est claire. Ça, c'est ce qu'on attend de nous. Matai Yagiou Maasai Le Maasai Avotai Avraham Yitzhak Yaakov, au même titre qu'Avraham Yitzhak Yaakov, ils ont eu la force dans une génération qui était complètement folle de se battre et être clair et créer le Emet et créer des Avot dans un monde qui était complètement tordu. Nous, c'est ce qu'on nous attend de nous de faire. Dans la génération dans laquelle on vit, de se battre pour chercher le Emet, Cherchez les maîtres, comment on doit aborder cette sougia, la sougia d'éducation. Il y a des téléphones, il n'y a pas de téléphone, il y a ça, il y a ça, il y a les films, il n'y a pas les films. C'est comme ça. Et quand tu cherches le Emet, eh ben Kadosh Baruch Hu, il répond présent. Hachem, il répond présent et c'est ça qu'Hachem attend de nous. Kadosh Baruch Hu nous dit, je vais répondre, je serai avec vous dans votre vie comme j'étais avec Avraham, Yitzhak, Yaakov. Mais pourquoi? Parce que eux, ils ont su chercher le Emet, analyser le Emet dans chaque détail de leur vie. Alors au même titre, nous, on doit savoir le faire. Qu'Hachem vous bénisse, que vous puissiez grandir, étudier comme il faut, passer une bonne année et profiter bien, Bezrat Hachem. Que des mochons, des mochons, des mochons.